Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi, c'est arrivé aujourd'hui.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
C'est arrivé un 27 avril et aujourd'hui, bien, les Sud-Africains célèbrent leur journée de la liberté comme chaque 27 avril lorsqu'ils se souviennent de la première élection démocratique cruciale de leur pays. C'était en 1994, ce qui a annoncé la fin officielle de la ségrégation et de l'oppression raciale qu'on appelait l'apartheid. L'Afrique du Sud aujourd'hui est cependant toujours confrontée à de graves problèmes sociaux et économiques. Un récit de François Vantôme.
Pour mieux comprendre l'importance des élections de 1994, il est crucial de revenir sur l'apartheid. Implanté par le Parti national, ce système visait à maintenir la domination de la minorité blanche sur la majorité noire et métisse. L'apartheid, qui a débuté en 1948 et a duré près d'un demi-siècle, a opprimé des noirs et les autres personnes non blanches au moyen d'une série de lois fondées sur la race. Non seulement ces lois les privaient du droit de vote, mais elle contrôlait également les lieux de vie des Noirs, les endroits où ils étaient autorisés à se rendre chaque jour, les emplois qu'ils pouvaient occuper et les personnes qu'ils pouvaient épouser. Au fil des décennies, cette oppression a engendré des mouvements de résistance, comme le Congrès national africain, ANC, dirigé par des figures emblématiques telles que Nelson Mandela. Il a d'ailleurs été emprisonné pendant 27 ans. Mandela est devenu le symbole de la lutte contre l'injustice. Les années 80 et 90 ont vu une intensification des manifestations contre le régime d'apartheid, ainsi que d'importantes sanctions économiques internationales. Ces pressions ont forcé le gouvernement sud-africain à entamer des négociations avec les leaders de l'ANC, ouvrant ainsi la voie à des réformes essentielles. L'élection de 1994 a été le point culminant d'un processus qui avait commencé 4 ans plus tôt lorsque le président de Klerk, le dernier président de l'ère de l'apartheid, a choqué le monde et son pays en annonçant que l'ANC et d'autres partis anti-apartheid seraient débarrassés de leur interdiction. Après des années de tensions et de négociations, les élections ont été confirmées. Du 26 au 29 avril, les Sud-Africains de tout horizon ont pu voter pour la première fois. Près de 20 millions de Sud-Africains de toute race ont voté, contre seulement 3 millions de Blancs lors des élections générales organisées sous le régime de l'apartheid en 1989. Les violences liées à la campagne électorale avaient quelque peu assombri les préparatifs, mais l'événement lui-même s'est déroulé dans un climat d'approche pacifique. Le jour J, les électeurs ont afflué vers les bureaux de vote, devenant un symbole de l'espoir d'un nouvel avenir. L'ANC, sous la direction de Nelson Mandela, a remporté 62,65% des voix, permettant à Mandela de devenir le premier président noir d'Afrique du Sud. Les héros sud-africains sont légendaires à travers les générations, a déclaré Mandela en proclamant la victoire. Mais c'est vous, le peuple, qui êtes nos vrais héros.
Dedicate this day to all the heroes and heroines in this country and the rest of the world who sacrificed in many ways and surrendered their lives so that we could be free. Their dreams have become reality. Freedom is their reward. We are both humbled and elevated by the honor and privilege that you, the people of South Africa, have bestowed on us as the first president of a united, democratic, non-racial, and non-sexist South Africa to lead our country out of the valley of darkness.
La victoire électorale de l'ANC a permis de démanteler définitivement l'apartheid et de rédiger une nouvelle constitution qui est devenue la loi suprême de l'Afrique du Sud, garantissant l'égalité pour tous, indépendamment de la race, de la religion ou de la sexualité. La transition pacifique vers la démocratie a été saluée comme un exemple pour d'autres nations, confrontées à des défis similaires. Le processus de réconciliation mis en place par Mandela et l'ANC, qui a inclus la Commission Vérité et Réconciliation, a été un modèle pour aborder les blessures du passé et promouvoir l'unité nationale. L'ANC est au pouvoir depuis 1994 et bien qu'il soit toujours reconnu pour son rôle central dans la libération des Sud-Africains, il n'est plus célébré de la même manière qu'il l'était dans la période pleine d'espoir qui a suivi cette élection. Le parti et l'actuel président Cyril Ramaphosa sont confrontés à des défis croissants, notamment en matière de corruption, de services publics et de gestion économique, ce qui engendre des critiques tant au sein de la population qu'auprès de l'opposition. L'Afrique du Sud d'aujourd'hui est toujours confrontée à de graves problèmes socio-économiques, dont aucun n'est plus frappant que la pauvreté généralisée et sévère qui touche encore massivement la majorité noire. Le taux de chômage officiel est de 32%, le plus élevé au monde, et il est de plus de 60% pour les jeunes de 15 à 24 ans. Des millions de Sud-Africains noirs vivent encore dans les townships négligés et appauvris et dans des quartiers informels en périphérie des villes. L'Afrique du Sud est malheureusement toujours considérée comme l'un des pays les plus inégalitaires au monde.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Il a plu dans la chambre, est-ce que c'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part? Je crois que j'ai les mains qui tremblent, je cherche un peu la flamme, est-ce qu'il reste nous quelque part? Mais quand tu me regardes, je baisse un peu la garde.
C'était La pluie de Louane, notre sélection musicale en ce samedi sur Radio SBS. Allez, courte pause et on part à Villers-Bretonneux, l'année 2003 et un petit retour dans nos archives. Tout de suite après ça. Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
J'ai le plaisir de parler à Monsieur Hubert Lelieur, docteur Hubert Lelieur, à qui donne rendez-vous chaque année, et ceci depuis de très très longues années, pour le rendez-vous de ANZAC à Villers-Bretonneux. Bienvenue encore une fois, docteur Lelieur.
Et bonsoir à tous nos amis francophones de cette région du Pacifique Sud, tous ceux qui nous comprennent bien. Voilà. Ben oui, cette semaine, c'est l'ANZAC Day. Nous commençons à entrer dans cette semaine commémorative, à réfléchir, à recevoir beaucoup d'amis qui viennent de là-bas nous rendre visite, à penser un petit peu à tous ceux qui sont définitivement restés chez nous.
Et d'ailleurs, il y a eu une année d'inquiétude l'année dernière lorsque le gouvernement avait certains projets qui ont inquiété naturellement les vétérans des deux guerres dans plusieurs pays du monde.
Oui, à propos d'un aéroport qui se serait fait par ici, je crois, c'est ce que vous voulez.
C'est ça, évoquer. Et qui a beaucoup inquiété les communautés dans le nord de la France, de même que les familles de ceux qui sont restés chez vous.
À vrai dire, ça concernait une région du front, de la ligne de front de la guerre de 1914 et 1918. Très peu, il faut le dire, il y avait une grande polémique là-dessus, très peu de cimetières militaires, très très peu, c'est-à-dire quelques dizaines de tombes de cimetières militaires du Commonwealth. Parce que c'était une zone plutôt occupée par les armées du Commonwealth. Et puis, bon, c'était, les décisions n'étaient pas prises et actuellement, c'est abandonné, espère-t-on.
Donc, pas d'inquiétude à se faire pour l'instant. Voilà.
Il n'y a pas d'inquiétude à se faire actuellement.
Alors, docteur Lelieur, qu'allez-vous faire cette année en 2003 pour Anzac Day à Villers-Bretonneux?
Eh bien, c'est un peu comme chaque année, une semaine où l'on réfléchit un peu. Hein, comme je vous le disais d'entrée, semaine où on est en communion de pensée avec eux. Et puis, on se rapproche. C'est-à-dire que pendant une semaine, comme déjà l'année dernière ici même, pendant une semaine, il y a toutes sortes de manifestations, d'activités, à vrai dire, d'activités d'ordre, des conférences, des concerts de musique, des visites commentées. Ça nous donne un peu l'occasion d'attirer vers ces leçons du passé que certains n'ont pas apprises et que peut-être certains ont oublié, ou parce qu'ils étaient trop jeunes, ou parce qu'ils ne sont pas du tout intéressés à la chose. Donc ça les rapproche un petit peu de tous ces événements de la Première Guerre mondiale. Et puis, je crois qu'à l'heure où les survivants, bien sûr, sont pratiquement en voie d'extinction, et à l'heure aussi où les générations suivantes regrettent de peut-être ne pas les avoir suffisamment interrogés, ne peuvent pas les avoir suffisamment écoutés ou appris autour d'eux. Il y a comme une recherche très spontanée vers ce qui s'est passé. Je crois que c'est d'ailleurs quelque chose qui vous est très connu et qui était peut-être davantage sensible dans les pays en Australie et même dans les pays qui restaient assez proches du Commonwealth. Et puis cette année aussi, on inaugure un peu ce qui se passe chez vous, c'est-à-dire des cérémonies très matinales. On a, bon, tout près de Villers-Bretonneux, il y a le Hamel, qui est bien connu aussi pour la bataille du Hamel qui a eu lieu quelques jours après celle de Villers. Et la bataille du Hamel, il y a maintenant au Hamel très nouveau et très beau mémorial. Et ben, par exemple, vendredi matin, 25 avril, à 6h du matin, nous y serons pour commémorer un petit peu comme ça se passe en Australie. Je sais que ça se passe comme ça à Melbourne. 6h le matin, on a une cérémonie sur place. Et il y en a d'autres. Il y en a une à Bulcourt, je crois, ou à Fromel. Enfin, ce sont les points forts de cette matinée du vendredi matin.
On approche aussi, oui, c'est très tôt le matin, et d'ailleurs c'est une atmosphère tout à fait surréaliste, très 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 retenue, très émotive, très émouvante aussi.
Et déjà, oui c'est ça, moi j'ai assisté déjà à une, c'était en Australie d'ailleurs, mais c'est très particulier, ces cérémonies le matin, et puis ça nécessite de faire un effort, on y va, là on a une participation, si vous voulez, à la cérémonie, on ne la subit pas comme quand ça se passe, c'est pas comme le 11 novembre à 11h, bon c'est une heure, et bien là c'est le 25 avril à 5h, parce que c'est là que ça a commencé.
Et est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une préparation pour le centenaire de cette Première Guerre mondiale, parce qu'on en parle beaucoup?
Oui, on en parle un petit peu. Si nous en parlons, même aux fonctions que nous occupons, c'est dans 10 ans, ça, quand même.
Oui, c'est ça. Et donc, les témoins auront disparu, véritablement.
Peut-être, oui, peut-être pas. Mais enfin, on en parle parce qu'on voudrait... d'abord, on sait que ce sera la volonté des gens qui seront là, allez, à ce moment-là, de faire quelque chose d'un peu exceptionnel, de marquer l'événement. Et puis, il y a des choses qui se préparent, comme il y a déjà des idées plus ou moins fantaisistes, enfin, ou plus ou moins irréalistes, mais on fera quelque chose.
À part le service qui se rapproche de celui de Melbourne et de Sydney, c'est-à-dire le service à l'aube, littéralement, qu'il y a autre chose, par exemple, est-ce que l'école Victoria fait quelque chose de particulier cette année à Villers-Bretonneux?
Une exposition qui a lieu lundi, qui est inaugurée dimanche, et qui va durer une semaine. Il y a aussi, à l'école Victoria, dans la salle des fêtes de l'école Victoria, une, une exposition permanente, alors qui va durer un petit peu plus longtemps, et qui sont de grands tableaux, surtout orientés vers le Victoria. Enfin, c'est des tableaux, des grandes fresques qui ont été peintes et qui nous ont été gracieusement mises à notre disposition par l'ambassade d'Australie, et qui va nous les laisser. Ce sont des grands tableaux, si vous voulez, qui vont pouvoir, de 2 mètres sur 3, il y en a, je crois, une douzaine, et on pourra faire une espèce d'exposition tournante. Et ça, c'est à l'école Victoria elle-même, dans la salle des fêtes. Oui, il y a toujours une animation importante. Bon, spécifiquement, à l'école Victoria, il y a une enseignante qui fait de sa classe un peu un modèle de culture du souvenir, dans une classe d'enfants qui ont 10 ans à peu près. Et ça, c'est une activité permanente.
Nous trouvons en Australie, par exemple, qu'au service de l'aube, qui est le service le jour même de Anzac, les foules sont de plus en plus nombreuses. Est-ce que vous avez cette impression dans le nord de la France?
Nous les commençons, ces services de l'aube. Bon, pour les autres, il y a toujours une très grande une présence importante et une très grande mobilisation, si vous voulez, parmi la population. Il y a plus d'enfants, peut-être parce qu'ils sont plus motivés, peut-être parce qu'ils sont plus préparés à ce qui va se passer, enfin à ce qui se passe à ce genre de cérémonie. Avant, bon, c'est une cérémonie parmi tant d'autres, mais celle-ci, ils savent que c'est, les gens savent, et les jeunes savent que c'est relativement plus original pour eux. C'est quand même dans cette région-ci que, en France, et même on leur dit, en Europe, on parle le plus de la participation australienne et de la Première Guerre mondiale, avec les Australiens et les Anzacs en général. Oui, il y a quelque chose qui vit.
Et qui se perpétue.
Qui se perpétue, mais qui même grandit.
C'est très beau, ça. Et ceci en dépit des contingences et des petites différences d'opinion et de prise de position, quelquefois.
Ça n'a aucun impact.
Aucun impact. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant d'entendre ça.
Ça n'a pas d'impact. C'est sur la population, vous savez. Bon, c'est un petit peu grossi par les médias. Vous en faites partie, mais ici, il n'y a pas eu de conversation. Il n'y a pas eu à peine de conversation et il n'y a pas eu de prise d'opinion violente, enfin, tout au moins très tranchée. Bon, il y avait des nuances entre les uns et les autres, mais enfin, tout le monde était à peu près côté de nos alliés traditionnels, quoi.
C'est très beau à entendre, docteur Lelieur. Un dernier message, docteur Hubert Lelieur, avant de ce service de Anzac à la fin de la semaine, de votre part.
Il faut que les Australiens, peut-être les émigrés d'ici qui habitent dans votre région, sachent qu'on leur est très proche. Et de plus en plus proches. Et on pense beaucoup à eux. On est du même monde, si on veut. Malgré les petites divergences qui peuvent arriver. On est beaucoup plus proche de chez vous que vous ne le pensez.
C'est très beau.
Voilà.
C'est très beau, c'est très émouvant. Alors, je vous souhaite un très bon Anzac Day.
Je vous remercie.
Docteur Hubert Lelieur, merci à vous.
Voilà.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue, et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment,
cette chanson si touchante de France Gall, ce samedi sur SBS. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
On est en studio avec Alexandra Ganipo. Alexandra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de The French Hack. Alors, French Hack, c'est des cours de français, mais c'est plus original que ça. On va en parler dans un instant. Vous apprenez le français à des anglophones, à des personnes qui veulent s'améliorer, à des personnes qui cherchent à apprendre cette langue. Mais ce ne sont pas des cours classiques. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler?
Moi, j'ai décidé que des cours classiques, il y en avait tellement. Et je les ai fait pendant tellement longtemps que j'avais envie, en fait, de m'amuser. Les cours classiques, la grammaire, je la fais assez avec les élèves qui passent le bac. Donc, avec les adultes, j'ai décidé qu'on allait s'amuser. Donc, on s'amuse et on apprend le français en même temps. Donc, c'est plutôt un système d'immersion, mais autour de café, autour de déjeuner et d'activités françaises.
Vous avez créé The French Hack quand ?
De fin 2019 à début 2020, donc 5 ans.
Un petit peu malmené par le Covid ou ça a continué malgré la pandémie ?
Non, justement, moi je pense que la pandémie m'a en fait aidée puisque pendant la pandémie, on n'avait plus besoin de justifier le online. C'était vraiment quelque chose de naturel et moi j'avais déjà 3-4 mois derrière moi. Donc en fait, ça s'est fait assez naturellement.
Vous venez de parler justement que vous vouliez un concept original pour contrer les autres cours de français plus classiques, disant il y en a tellement. Mais bien sûr, entre l'Alliance française, le français à l'école en Australie, c'est quand même une langue qui est enseignée dès le plus jeune âge, d'autres plateformes de tutorat. Est-ce que vous n'êtes pas confronté à une grosse compétition ?
Absolument, c'est énorme. Mais quelque part, moi, je me retrouve parce que moi, j'ai décidé d'enlever les niveaux. Il n'y a pas de A1, de B2, de tout ça. Moi, je prends tout le monde et on trouve quelque chose parce que, en fait, ces femmes, généralement, ce sont des femmes, n'ont pas d'examen à faire. Donc, on fait avec ce qu'elles ont et on avance.
Pourquoi plus des femmes que d'hommes ?
Aucune idée. Je ne sais pas pourquoi,
c'est
mais j'ai créé.
Que vous avez remarqué ?
C'est fascinant. J'ai vraiment créé une communauté de femmes francophiles, en fait. Et c'est merveilleux.
Vous allez nous l'expliquer. Il y a une question de, alors pas de niveau, mais d'âge. Vous parlez, il y a ceux qui passent le bac, il y a les adultes. Mais vous avez aussi un système d'adhésion. Ça, c'est assez original.
Oui. Alors, ça aussi, puisque moi, je voulais vraiment me mettre en ligne. Et en fait, quand on fait des cours privés, des cours particuliers, ça reste une personne, ça reste 30 minutes ou une heure. En fait, c'était parce que je voulais créer une communauté. Donc, l'adhésion, c'était une progression logique pour moi. Parce que je voulais du groupe, en fait. Vous savez que les 3/4 des choses que j'organise pour French Hack, c'est gratuit, en fait.
D'accord.
Ce sont des rencontres café, des déjeuners, des choses. Ensuite, oui, il y a un cours le mercredi où on se retrouve en Zoom une fois par semaine. J'envoie des devoirs et des choses. Et le reste, les adhérents ont accès à ce que j'offre en ligne. Ils peuvent acheter des PDF que je crée. Et comme je fais des choses on demand, ça rend les choses très, très faciles pour moi et pour eux. Donc, en fait, je suis un peu leur go-to Frenchie, comme ils m'appellent. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils savent où aller et c'est beaucoup plus simple.
À vous écouter, on a quand même l'impression que la bonne humeur, la jovialité, la convivialité est un peu un moteur de The French Hack. Et d'ailleurs, votre slogan, c'est « Apprendre le français n'a pas à être compliqué, éprouvant ou cher ».
Vous savez, j'ai passé plus de 20 ans à ne travailler que dans des compagnies, à préparer les élèves au bac, à des examens. C'était vraiment très, très sérieux. Là, j'ai l'impression que ce côté, on s'éclate en fait. On fait du français, mais en fait, on parle de maquillage, on parle de nourriture, on parle de voyage, on parle de tout sans parler juste du passé composé et de l'imparfait et des choses comme ça.
Et vos clientes d'ailleurs, elles vous réclament plus que des cours, elles veulent voyager avec vous.
Maintenant, elles veulent voyager avec moi, voilà, exactement. Donc là, on vient de planter une nouvelle graine en fait. Donc peut-être en 2026, il y aura un premier petit voyage French Hack. J'ai déjà bien sûr quelque chose en tête dans le sud-ouest, puisque moi je suis bordelaise, mais c'est ça, en fait. J'avance avec mes clientes, en fait.
Et tout repose sur vos épaules à vous seule ou vous avez quand même une équipe à The French Hack ?
Non, c'est moi, le
c'est
French Hack.
C'est tout vous ?
C'est tout moi.
Donc, vous corrigez les devoirs, vous donnez les cours de français, vous faites les conversations, vous organisez le voyage, vous faites le tutorat privé, tout, toute seule ?
Absolument.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un élan de personnes qui veulent apprendre le français parce qu'il y a un fantasme français, que ce soit gastronomique, culturel, musical ?
Absolument, et c'est fascinant parce qu'il y a vraiment, vraiment des personnes qui veulent absolument apprendre. Mais ce qui m'a peut-être un petit peu aidée à changer un tout petit peu la direction, surtout avec les adultes, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que beaucoup veulent apprendre, mais en fait, pas vraiment. Je pense que ce qui les intéresse plus, c'est pouvoir commander quelque chose, parler un petit peu, rester en surface, et moi, je leur offre ça.
Un auditeur qui nous écoute, qui a quelques bases en français, qui lui permet de comprendre cette conversation et qui veut aller plus loin avec vous, qu'est-ce qu'il doit faire cet auditeur ?
Se mettre en contact, tout simplement, à travers les réseaux sociaux ou sur mon site. Je suis assez facile à joindre et je réponds généralement en 12 heures.
Vos clients, ce sont des Australiens ?
Des Australiennes, oui. Je dois dire qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. J'ai quelques messieurs qui viennent de temps en temps, mais c'est vrai qu'on reste quand même dans une clientèle assez féminine.
Et vous, Alexandra, vous vous sentez plus française ou plus australienne ?
Oh non, cette question ! Je pense que je suis comme un puzzle qui s'est vraiment bien emboîté. J'ai vraiment ma partie française, ma vie française, ma personnalité qui est très française. Mais je crois que j'ai pris tout ce qu'il y a de mieux du côté australien et j'ai créé quelque chose dont je suis assez fière d'ailleurs. Je la vois la différence quand je rentre en France, mais j'aime bien ma nouvelle, comment est-ce qu'on peut dire ? C'est pas une identité, ma nouvelle identité.
Votre nouvelle identité. Alexandra Ganipo, fondatrice de The French Hack, merci beaucoup.
Non, merci à vous. C'était un plaisir, merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon une envie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout haut, il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier.
Tout oublier de la chanteuse belge, la géniale chanteuse belge Angèle. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Europa Voice numéro 163 et je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors sujet un petit peu différent cette semaine dans Europa Voice puisque bon ben vous devez le savoir hein, le monde va avoir un nouveau pape. Pape François est décédé mais ce pape avait une relation un peu particulière avec l'Union européenne et c'est assez rare pour pouvoir pour nous de devoir le souligner.
Oui, effectivement, Christophe. Alors, le pape François, en fait, était un drôle de personnage parce qu'il était à la fois ni dans la case de ceux qui voulaient voir en lui la continuation de ses prédécesseurs, notamment Jean-Paul II et Benoît XVI. Il n'était pas non plus dans la case de ceux qui voulaient voir une rupture totale avec le conservatisme de l'Église. Ça, c'est, j'allais dire, de manière générale durant
Il avait un certain conservatisme progressiste.
Il était un peu le en même temps. C'était
oui,
un
voilà,
peu le pape.
Le pape du en même temps.
C'était le pape du en même temps, donc très 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 à la mode. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que entre le pape François et l'Union européenne, la relation qui s'est développée était vraiment une relation, je dirais, bienveillante, avec des exigences d'un côté comme de l'autre. Mais en tout cas, c'était quelque chose de constructif. Et ça en dit d'ailleurs beaucoup plus sur le pape qui a, j'allais dire, remis une diplomatie active au niveau du Vatican. Mais évidemment, nous, dans Europa Voice, ce qui nous intéresse, c'est la relation à l'Union européenne. Et on peut dire que le pape François voilà, a su redynamiser d'une certaine façon, notamment après Benoît XVI, la relation entre le Vatican et l'Union européenne.
Comment il était reçu à la table des plus grands, j'allais dire, tous les chefs d'État européens, au niveau des dirigeants européens, il y avait une véritable discussion qui pouvait s'engager ?
Alors déjà, il était beaucoup reçu parce que sur 47 visites pastorales internationales du pape François, un quart de ces visites ont été effectuées dans les États membres de l'Union européenne.
D'accord.
Donc c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que le pape François était beaucoup reçu par les dignitaires européens. Il y a certains pays d'ailleurs, Christophe, que le pape François a visité plusieurs fois. C'est le cas de la France. Il est venu à Strasbourg en 2014.
Donc c'est un petit cocorico strasbourgien pour
vous. que c'est un cocorico strasbourgeois, mais c'est aussi un cocorico Union européenne, hein, Parlement européen. Donc en novembre 2014, en septembre 2023 à Marseille et en décembre 2024 en Corse. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que décembre 2024, la Corse, c'est aussi son dernier voyage officiel. Mais il y a dans d'autres pays où le pape François s'est rendu plusieurs fois. Évidemment, je mets l'Italie dans l'Union européenne un peu à côté. Mais voilà, en tout cas, le pape François a montré beaucoup de proactivité dans le dynamisme et la relation qu'il a voulu réinstaurer avec l'Union européenne. Et
on sait que les papes qui se sont succédés, qui se succèdent, ont toujours un message de paix. Aujourd'hui, en tant que messager de la paix, c'était quoi sa position par rapport à l'Ukraine, par rapport à ce qui se passe avec la Russie, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec les États-Unis? Enfin, on sait qu'une de ses dernières visites, c'est J.D. Vance. C'est en tout cas l'une des dernières visites officielles avec le pape. Ça a duré que quelques minutes, mais en tout cas, c'est assez marquant. C'était quoi la position papale avec la paix ou la guerre en Ukraine?
On va mettre de côté J.D. Vance, parce que je pense que le pape, à ce moment-là, le pape François était déjà malheureusement sur le déclin et diminué. Sur l'Ukraine, Christophe, ce qui est intéressant, c'est que la position du pape François, à défaut d'avoir été, elle était en tout cas perçue comme assez ambiguë. Le pape François, il a pris position sur l'invasion russe très rapidement, parce que ça a marqué le retour d'un conflit, évidemment, sur le sol européen. Il a appelé, dès le début de ce conflit, à un arrêt des combats et à une résolution diplomatique du conflit. Donc, on était parti, j'allais dire, sur quelque chose d'assez logique et d'assez, d'ailleurs, aligné sur l'Union européenne. Le problème, c'est que le pacifisme que le pape François a voulu distiller à travers ses messages sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine a quelquefois semblé un petit peu déconnecté de la situation sur le champ de bataille. Il avait d'ailleurs appelé en mars 2024 à Kiev, il avait appelé à Kiev à avoir le courage de hisser un drapeau blanc et de négocier avec la Russie. Donc en fait, malheureusement, le message pacifiste du pape a pu être perçu aussi comme un abandon, d'une certaine façon, de ses frères ukrainiens. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le narratif, justement, sur la guerre en Ukraine, très vite, le Vatican, et pas le pape seulement, mais le Vatican, a repris un peu le dessus sur la communication vis-à-vis de l'Ukraine. Mais je crois que c'était plutôt un faux pas, et le message du pape...
Une maladresse ?
C'était une maladresse. Le message du pape, c'était véritablement un arrêt des combats et une résolution, à défaut d'être pacifiste, mais diplomatique de ce conflit.
Et sur le conflit en Israël et en Palestine ?
Alors, le pape François a eu quelques mots qui avaient fait polémique, d'ailleurs, sur Jésus et les origines palestiniennes de Jésus. Il avait parlé du kéfier, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pape François, finalement, a été plus timide sur ce dossier-là, par exemple, que sur l'Ukraine et la Russie dont on a parlé. Non pas qu'il n'en ait pas parlé, mais on avait l'impression qu'il n'a pas voulu non plus, ou en tout cas qu'il a voulu banaliser ce qui se passait. Alors évidemment, il a pris position sur ce qui est en train de se passer là, le conflit depuis et la guerre depuis le 7 octobre 2023. Mais c'est encore une fois, c'est à la fin de son pontificat. Le vrai message du pape sur ces questions-là, sur la question d'Israël, de la Palestine et sur la question en fait des migrants de manière plus générale, c'est la question de la générosité. C'est la question d'où l'ouverture. Et ça a été véritablement un point d'ancrage des discours du pape, de vouloir démontrer une solidarité, un engagement sans faille envers les migrants. Rappelez-vous-en, Christophe, il avait eu des mots très durs vis-à-vis des phénomènes de mondialisation. Il avait dénoncé la mondialisation de l'indifférence par rapport au sort des migrants. Il avait aussi dénoncé régulièrement la Méditerranée comme un cimetière. Il s'était rendu d'ailleurs plusieurs fois dans des points de passage entre le monde extra-européen et le monde européen, notamment je pense aux îles de Lesbos en Grèce, Lampedusa évidemment. Donc le pape François a véritablement voulu jouer un rôle sur cette question d'émigration, des migrants et de la solidarité envers ceux qui cherchent un avenir meilleur.
Alors on sait que le remplacement est, même si aujourd'hui le Vatican est toujours en deuil, et bien le remplacement est en marche, on va dire. L'importance de l'Église de choisir le bon pape pour la prochaine étape? Parce qu'on est, on le sait, tout le monde va vous le dire, on est dans une période un peu difficile à travers le monde. L'Église a un jeu, le Vatican en tout cas, a un rôle à jouer sur le choix de ce pape. Où est-ce que l'Église, où est-ce que le Vatican doit rester en dehors de ça? Est-ce qu'il y a un message à lancer, ou est-ce que, à votre avis, le Vatican doit rester en dehors de ça et continuer dans sa lignée?
Il y a une portée...
Sur le choix du prochain pape.
Oui, sur le choix du prochain pape, Christophe, il y a forcément une portée, j'allais dire, à la fois politique et symbolique. Si on revient juste sur le pape François, c'est quand même le premier non-européen à occuper cette fonction de pape depuis près de 1300 ans. Donc c'est aussi un message.
Ça va.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un message.
Il était argentin.
Argentin. Et donc c'est aussi un message du Saint-Siège, c'est un message du Vatican qui est porté au monde, qui est, j'allais dire, un message aussi... avec une vision démographique. C'est aussi donner, là où il y a le plus de fidèles, quelque chose qui les représente. C'est dans l'air du temps aussi d'être représenté dans les instances dirigeantes, quelles qu'elles soient. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que l'Église va revenir à une espèce de conservatisme et nommer un énième pape européen, ou est-ce que l'Église va rester... j'allais dire, aligné avec ce qu'elle a fait avec la nomination du pape François, et nommer un pape non européen. Et on pense, il y a évidemment l'Amérique du Sud, mais
l'Afrique.
Il y a deux continents, zones géographiques qui reviennent. Il y a l'Afrique, effectivement, Christophe.
Et l'Asie avec les Philippines.
Et l'Asie, effectivement.
Un petit peu quand même.
mais donc c'est intéressant parce que les 1,4 milliard de fidèles catholiques à travers le monde, ils ne sont pas tous en Europe, et ils sont de moins en moins en Europe. Donc il y a cette question-là qui joue, mais il y a aussi évidemment, encore une fois, la question du positionnement de ce pape-là, des valeurs de ce pape-là. Et comme on l'a dit, avec pape François, il y avait une espèce de, à la fois de satisfaction de tous les côtés, de non-satisfaction. Il était difficilement rangeable dans les cases ou du conservatisme ou du progressisme. Il était dans cet en même temps, très dans l'air du temps.
Sans trou, trop de laisser faire, trop de laisser nous. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. Tu la voulais fière, tu l'as mise à genoux. Trop de somnifères, trop des ventres mous. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou.
Autour de ton cou, Stéphane Echer, en ce samedi sur Radio SBS.
Watson SBS on demande. Tous les mois, SBS vous propose une très large sélection de nouveaux films et séries sur sa plateforme de streaming gratuite. Pas toujours facile de s'y retrouver, c'est pourquoi nous vous proposons notre sélection de contenus francophones. Watson SBS On Demand, c'est un rendez-vous mensuel avec des synopsis, des interviews, des bandes annonces de films, séries et même documentaires pour trouver quoi regarder sur SBS On Demand. Alors, que retrouver à partir du mois d'avril? C'est parti! Une série est à l'honneur, c'est Pandore, puisque les deux premières saisons sont disponibles d'ici à la fin du mois sur la plateforme. Pandore, c'est un thriller politique qui se déroule à Bruxelles, où une procureure découvre des complots et des secrets qui menacent la démocratie belge à 2 mois des élections. Bande-annonce de la saison 1.
Marquez-moi ça. On est là, putain.
Ces connards violeurs ont posté la vidéo sur les réseaux. C'est horrible.
Wahab Habib, en séjour illégal.
Ah merde.
Nous ne laisserons pas les immigrés semer la terreur chez nous.
Petit film, qu'est-ce qui vous revient? Qui filme?
Je me souviens de tout. Faut que vous m'aidiez ou je vous balance.
La saison 2 se déroule 2 ans après ces événements sur fond de bataille judiciaire et de vengeance.
C'est qui?
Alex Diaby, 25 ans, support technique.
Et il a volé quoi?
Des tests faits via l'appli SOS.
que des trucs qui portent atteinte à la protection de la vie privée, quoi.
S'ils appellent la police, vous pouvez leur demander d'appeler mon avocate, Maître Delval.
Vous avez volé un logiciel à votre employeur.
J'avais besoin de ces fichiers pour dénoncer que Gaïa espionne des gens.
C'est leur
lobbyiste, Christa Lorenz.
Maître Delval.
Le gouvernement a l'intention de surveiller les agresseurs.
C'est cela avant tout, la loi Ludivine.
Qu'est-ce que tu dirais de faire passer ta loi à l'ère du digital? Une appli qui peut alerter directement les forces de l'ordre sans même devoir appuyer sur un bouton.
C'est de la surveillance de masse.
On est dans son téléphone, hein?
Carrément.
Sauf que c'est pas légal.
Non, mais ça va le devenir.
Marc Waldeck annonce la collaboration du ministère de la Justice et de l'entreprise Gaïa.
Donc là, en fait, on élabore une loi ou une stratégie de com'?
Je me suis positionné comme défenseur des femmes.
Qui va sauver le monde si on le fait pas nous?
Claire, je t'aime, toujours.
Je voudrais savoir si mon mari est responsable de la mort de Ludivine Gilson.
Oui, je sais ce que t'as fait. Je sais tout.
Monsieur le ministre, on est ravis de vous recevoir. Il s'est rien passé, on est d'accord. Dans leur conflit d'intérêts.
Tout ça pourquoi? Pour finir en prison? Pendant que des connards boivent du champagne en enculant le monde?
Faites-moi confiance!
Je vous fais pas confiance!
Je sais pas si je pourrais vous pardonner cette fois-ci.
Beta, j'ai pas envie de me séparer.
Claire Delval aurait dit que vous avez tué Ludivine.
Monsieur le ministre, vous semblez prêt à prendre d'énormes risques pour faire passer votre loi. Pourquoi une telle urgence?
Je te jure que je vais pas te lâcher.
Vous avez misé sur le mauvais cheval. Il est pas trop tard pour l'admettre et changer de camp.
Fuck! Fuck! Fuck!
Au-delà de ce que me permet la loi, il y a ce que m'autorise ma conscience.
Quelque chose me dit que le vent est en train de tourner.
Voilà pour la série du mois. Côté documentaire, 4 font leur apparition sur la plateforme. Europe's Waterways raconte comment les rivières, les canaux ou encore les lacs ont façonné la culture européenne pendant des siècles. 5 épisodes pour découvrir ceux qui vivent sur et avec l'eau, explorant leur monde sous un angle nouveau. Autre documentaire, Eurostar Minding the Gap, sur le train mythique qui relie Londres à Paris en passant sous la Manche depuis 30 ans maintenant et qui transporte chaque année 10 millions de passagers. SBS On Demand vous propose également le documentaire Hidden Beauty of Northern France qui, comme son nom l'indique, explore le paysage pittoresque du nord de la France et son rôle dans la formation des moyens de subsistance des habitants locaux. Le premier épisode est consacré à la baie de Somme. Et enfin, De Gaulle versus Churchill, Memories of War, retrace le combat mémorialiste des deux hommes lors de la rédaction de leurs mémoires respectifs, chacun racontant sa Seconde Guerre mondiale. En ce mois d'avril, la sélection cinématographique francophone est très très riche. La liste complète des films est à retrouver sur notre site internet SBS French. Parmi les classiques à découvrir ou redécouvrir, il y a Le Cercle Rouge, The Red Circle, réalisé par Jean-Pierre Melville en 1970, où quand un ancien détenu, un fugitif et un ex-policier s'associent pour réaliser un braquage audacieux. Le Cercle Rouge, c'est un casting 5 étoiles entre Alain Delon, Bourvil, Yves Montand et François Perrier. Mais c'est aussi l'avant-dernier film de Bourvil, décédé un mois avant la sortie en salle. Après les années 70, imaginez les années 20. Un hôtel de bord de mer, une clientèle aisée et exigeante. Une femme malheureuse aux côtés de son mari jaloux accepte de participer à un tour de magie censé la faire disparaître et en profite pour s'évaporer pour de bon.
Quand je refermerai le cercueil, vous disparaîtrez. Hey! Cagarines de lastines ensaimades de cavalls, peus suats. Hey!
Voulez-vous être assez aimable pour faire réapparaître ma femme?
Qu'est-ce qui se passe?
Il est parti.
Je vais vous dire la vérité. Votre femme est dans cette boîte.
Oh les mains, que personne ne bouge au nom de la loi, ouvrez.
Il dit que ma femme est à l'intérieur.
Elle s'est enfuie.
Avec son amant.
Il est coquille. Que vous trouvez un indice? Surtout ne touchez à rien.
Vous faites disparaître ma clientèle et vous voudriez que je vous paye pour votre spectacle. Bravo.
Vive les artistes.
Compagnon de ma bajou, que vous soyez une bonne nuit.
Je vois un jeune homme sensible, courageux.
Il est très timide.
Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse le premier pas.
Bravo.
Mon frère, je te dois la vérité.
Je vois clair dans ton jeu, mon pauvre ami.
Ce que tu veux, c'est mon argent.
J'ai pas tout compris. Ça ne fait rien.
Au bord de la mer, la mauvaise joue, la mauvaise joue, la mauvaise joue.
Je pourrais exiger des dommages et intérêts.
Nous aussi, nous pourrions exiger des dommages et intérêts pour clientèle défectueuse.
Noémie Lvovsky signe là un long métrage introspectif qui met en lumière les conséquences de vivre dans un monde de tromperies et de faux-semblants, tout en questionnant la nature de la vérité et de la confiance. Une autre plongée dans le passé, encore plus loin, fin du 19e siècle. Une femme épouse un homme qu'elle n'aime pas pour éponger les dettes de son père. Mais c'est avec son amant qu'elle va véritablement découvrir l'amour, la liberté, la transgression et l'érotisme.
Alors, est-ce vrai ce que l'on dit, c'était vraiment le plus beau jour de votre vie?
Je n'ai pas pu être ton mari, alors je serai ton amant. Je vais t'apprendre tous les vices, Madame de Régnier, même ce dont tu n'as pas idée.
Sachez qu'il m'importe d'être photographiée dans des poses que la morale réprouve.
J'étais prêt à tout pour l'épouser. Même à trahir une amitié.
Qui est cette femme avec Pierre? Elle est sublime.
Tu as d'autres maîtresses, c'est ça? Tu crois que je t'aimerais mieux si j'avais d'autres amants?
Fais jamais ça, mouche. Jamais.
Ah, oublie Pierre. Henri est ton mari.
J'ai peur de la laisser seule. Elle a même dit qu'elle songeait au divorce.
Je ne vous aime pas, Henri. Je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas. J'ai commencé à écrire.
On sent que vous parlez de vous. C'est moderne.
Tout le monde aime les histoires d'amour.
Surtout quand elles sont scandaleuses.
Je vous ai scandalisé?
Qu'est-ce que tu connais, toi, l'amour?
C'est moi que tu aimes, n'est-ce pas?
Nous deux, c'est pour rire, tu sais bien. Le mariage a des vertus secrètes, mais je ne suis pas certaine de les connaître.
Voilà, c'était la bande-annonce du film Curiosa.
Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, traverser.
Et c'était Zao de Sagazan avec sa chanson La Symphonie des éclairs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.u/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.